Votre univers.
Radio Campus 88.3 FM.
Sincèrement, je trouve que vous avez énormément de talent.
Quand tu fais ça toutes les nuits, tu fais à peu près la même chose, alors t'habitues.
Radio 100% jeune.
Aucun d'entre eux n'est un professionnel.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Le Moulin à Parole. Aujourd'hui au programme de cette émission, la restitution des interviews réalisées le 21 juin 2023 à Sully-sur-Loire dans le cadre de la manifestation Métiers en Fête organisée par la communauté de communes du Val de Sully. Et c'est tout de suite après ce jingle.
Radio Campus 88.3 FM.
Le Moulin à Parole. Restitution d'ateliers radiophoniques et paroles partagées. Le Moulin à Parole.
Radio Campus 88.3. J'accueille à présent mesdames Demise et Étave de l'entreprise locale Swiss Chrono. Bonjour à vous.
Bonjour.
En stéréo. C'est magique, c'est de la radio. On va commencer par une présentation de Swiss Chrono, une entreprise locale implantée à Sully-sur-Loire.
Oui, donc Swiss Chrono, on est un groupe familial suisse-allemand. On est à Sully-sur-Loire depuis maintenant 35 ans. C'est 400 collaborateurs qui travaillent sur le site pour fabriquer des panneaux à base de bois. Donc panneaux à base de bois, panneaux d'OSB et de particules, et également des panneaux de décor. Donc pour tout ce qui est construction, maison, ossature, bois, l'agencement et l'ameublement, les dressings, les cuisines.
Et ça représente beaucoup de travail, j'imagine, puisqu'il y a 400 collaborateurs.
Alors oui, on a 400 collaborateurs avec différents métiers présentés sur notre site. On est un site complet puisqu'on passe par des achats de matières premières, de la production, de la maintenance, de la logistique et tous les services supports également comme la comptabilité, le service sécurité, environnement, le service RH et tous les services annexes en fait qui existent.
Alors, je ne sais pas, je crois qu'on parle de grumes, non ? Enfin, c'est bien ça quand on parle de,
oui,
de bio, c'est ça que vous recevez ici ? On part de la grume, alors je ne sais pas, un tronc d'arbre, allez, pour schématiser, qui arrive chez vous. Qu'est-ce qui se passe après ? Qu'est-ce qui lui arrive à ce tronc ?
Alors, on reçoit différents types de matières premières. Donc, pour fabriquer un panneau OSB, effectivement, on reçoit des rondins de bois issus et approvisionnés localement, c'est-à-dire qu'on a aussi nos exploitations forestières qui nous permettent de nous alimenter. Le rondin de bois arrive chez nous et est complètement transformé, écorcé, coupé, puis ensuite il passe dans des encolleuses et ensuite dans des presses, donc des presses à continu. Qui font un panneau plus ou moins épais en fonction des demandes des clients.
Et donc le bois va être finalement compressé en panneau OSB, c'est bien ça ?
C'est bien ça.
Et ensuite, parce que bon, il ne va pas rester ici à Sully-sur-Loire ce panneau de bois.
Alors une fois terminé le panneau, donc on est sur deux types de panneaux, comme on disait, le panneau d'OSB et le panneau de particules. Le panneau d'OSB va pouvoir être envoyé directement au client. Le panneau de particules, lui, peut être décoré, on lui apporte une finition supplémentaire en lui mettant des feuilles de décor mélaminées. Et une fois ce panneau transformé, il part avec un cariste dans les stocks et ensuite on l'expédie chez le client. Donc clients, les industriels, les grandes surfaces de bricolage, les architectes d'intérieur, les négoces.
Et donc, vous nous en aviez parlé en début d'émission, il y a de nombreux corps de métier qui entrent en œuvre depuis la réception de ces rondins de bois jusqu'à leur exportation en produits finis dans des magasins de bricolage, par exemple. Est-ce que vous pouvez nous parler de tous ces métiers-là, alors ?
Oui, donc on est un site industriel, donc on a beaucoup de postes liés à la production, tout ce qui va être contrôle qualité des panneaux qu'on fabrique, la conduite de ligne pour pouvoir conduire la presse, et également des postes de cariste pour pouvoir sortir les panneaux en fin de production et les acheminer dans les stocks, et également pouvoir prendre les panneaux dans les stocks pour les charger sur les camions pour la partie expédition. À côté de ça, on a aussi tout un service maintenance qui existe sur le site, puisqu'on est sur un grand parc machine avec des électriciens, des mécaniciens. On tourne à feu continu, 24-24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Donc, il y a tout un service maintenance derrière qui doit suivre.
Alors, on pourrait penser que depuis le temps que vous êtes sur le territoire, vous êtes connu et reconnu auprès de la population et que vous n'auriez aucune difficulté à embaucher, que vous faites peut-être même partie du parcours d'avenir que s'imaginent certains jeunes. Un jour, je travaillerai peut-être comme le voisin ou tonton chez Swiss Chrono à tel poste. Et pourtant, vous recrutez. Alors, sur quel type de poste ?
Alors, on recrute sur tout poste. Il faut savoir également qu'on est un gros partenariat avec les écoles environnantes aussi pour l'apprentissage, puisque pour nous, le recrutement et la recherche de talents s'axent déjà et avant tout sur l'alternance pour pouvoir aussi développer les compétences et attirer plus de talents. Ensuite, on est aussi connu et reconnu, comme vous l'avez dit, localement. Et c'est pour ça aussi qu'on participe et qu'on tient à le faire à toutes ces rencontres locales pour se faire connaître, pour aussi expliquer notre développement. Parce qu'aujourd'hui, en 35 ans de présence sur le territoire, il y a forcément eu des évolutions. Et aujourd'hui, on est aussi sur un groupe qui reste familial, mais qui veut se moderniser et qui se développe en termes de digitalisation, de développement durable. Donc c'est aussi tous ces sujets d'actualité sur lesquels on travaille aujourd'hui.
Et oui, parce que on est à côté de la forêt d'Orléans, enfin je veux dire la région centre, alors pas seulement, mais en France on a beaucoup de régions qui produisent du bois. Enfin je pense forcément à la région d'Orléans, je pense aussi au Morvan qui n'est pas très loin. Je crois que c'est le premier producteur de sapins de Noël. Enfin bref. Et il y a de gros enjeux parce qu'il faut gérer ses ressources forestières composer justement avec la modernisation, la digitalisation, la numérisation, le changement de machine. Enfin, j'imagine que les machines qui sont employées aujourd'hui ne sont plus les mêmes que celles qui l'étaient lors de l'ouverture de l'entreprise. Et donc, c'est pour rester justement toujours dans l'air du temps que vous poursuivez justement ce travail d'accompagnement des apprentis.
Oui,
parce
c'est
que
ça.
Les métiers évoluent.
Oui, les métiers évoluent. Notre système de production évolue également. Faut savoir qu'aujourd'hui, on se tourne de plus en plus aussi vers de l'économie circulaire. On utilise des rondins de bois, mais pas que. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui capable aussi de fabriquer des panneaux avec des matières recyclées, du broyat de palette, des choses comme ça. Et également, en termes d'énergie, aujourd'hui, on est sur un développement en collaboration avec divers partenaires pour avoir un sécheur basse température, pour pouvoir être... plus viable en termes de consommation d'énergie et de décarbonation.
Et oui, vous prenez en compte les contingences écologiques. Votre grand atout est quand même d'être implanté localement. Pour les jeunes qui souhaiteraient justement faire un apprentissage ou intégrer votre entreprise plus tard.
Je pense que notre atout, c'est surtout la diversité des métiers qu'on peut offrir et l'accompagnement qu'on peut apporter pour ces jeunes avec des possibilités d'évolution par la suite aussi. Le but aujourd'hui, c'est si on forme quelqu'un maintenant, c'est de pouvoir aussi l'accompagner derrière et en faire un futur talent pour la société.
Merci à vous de nous avoir permis de mieux connaître cette entreprise locale, donc d'origine à la fois, vous me disiez, suisse et allemande, c'est ça, voilà, Swiss Chrono, chrono avec un K comme le temps, c'est ça. C'est pour ça, j'imagine.
Pas comme le temps.
Chronos, non, c'est avec CH d'ailleurs, oui. Alors pourquoi un K ? Parce qu'on pourrait penser, non, c'est
aucune
un nom.
Idée.
D'accord, tant pis. Merci à vous, à très bientôt sur Radio Campus 88.3.
Merci.
Radio Campus 88.3, nous accueillons à présent Lucie Rouzy-Vercrosen. Elle est responsable de l'antenne Montargis-Gien du BGE Loiret, BGE comme belle graine d'entrepreneur. Cette interview sera menée par Lucas Santerre.
Oui, bonjour. Aujourd'hui, on va parler du BGE. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette structure ?
Oui, merci. Donc déjà, bonjour à tous aussi. Alors BGE, c'est une association qui date d'une quarantaine d'années et on accompagne les personnes qui ont un projet d'entreprendre. On les accompagne donc vers la structuration du projet, se poser les questions comme par exemple, est-ce que je vais pouvoir me rémunérer dans mon activité ? Ai-je les diplômes nécessaires si mon activité est réglementée ? Et il y a aussi la question des clients, par exemple. Quel est le client type qu'on aimerait avoir et qu'est-ce qu'on va proposer comme offre ? Et il y a aussi la partie financière. Donc s'ils cherchent un financement, on les accompagne pour justement présenter leur projet. et on fait aussi une partie appui au développement. Donc quand les personnes ont créé leur entreprise, on les accompagne à développer leur activité et à faire des points réguliers avec eux.
Et concrètement, sur le territoire, c'est combien de personnes que vous accompagnez au quotidien et sur quel genre de mission ?
D'accord. Alors, je vais plutôt parler spécifiquement pour Montargis-Gien, l'antenne pour laquelle je suis responsable. Donc, l'année dernière, on a accompagné dans nos locaux à peu près 300 personnes. D'accord. Donc, des premiers rendez-vous pour justement répondre à des questions. Et ensuite, en ce qu'on appelle structuration de projet, 150 personnes. Donc il y a vraiment tout type, j'ai envie de dire, de personnes et tout type de projets. C'est vraiment rendre accessible l'entrepreneuriat et aussi démystifier ce qu'est l'entrepreneuriat.
D'accord. Et justement, pourquoi l'entrepreneuriat peut paraître obscur pour des jeunes qui sortent à peine du bac, et comment leur expliquer quelles sont les clés pour commencer à monter sa micro-entreprise ou son commerce ?
Alors, en fait, il faut savoir que l'entrepreneuriat fait partie aussi maintenant des parcours de professionnels que l'on peut avoir. Et les questions qu'il faut se poser, c'est déjà, est-ce que j'ai un projet d'entreprendre ? Déjà, est-ce que j'ai le savoir-faire ou j'ai envie d'innover, de créer quelque chose, d'accord ? Et après, ça va être aussi la partie de, par exemple... elle a des appétences, des compétences sur la comptabilité ou la communication, c'est mettre en avant en fait tout ce savoir-faire. Et nous, justement, on les amène à se poser des questions et on les oriente pour se former aussi, pour avoir un parcours plus sécurisé et les dynamiser. Parce que aussi, il y a la question dans l'entrepreneuriat. Des fois, si on leur pose la question, ils vont nous donner des gros groupes, mais pas prendre en considération, comme vous l'avez indiqué, le statut micro-entrepreneur ou entrepreneur individuel qui peut être aussi réel.
Est-ce que vous pouvez nous donner l'exemple d'une entreprise que vous avez accompagnée récemment et qui vous a marqué par son projet, par le côté humain de la personne qui portait le projet ?
Oui, alors du coup, je vais vous évoquer Mouedène Bouchra, qui a ouvert un concept de cuisiniste à Villemandeur, dans le 45, donc. Et son concept s'appelle Jolie Cuisine. Elle a, au cours de sa première année d'activité, elle a déjà embauché des salariés, elle a atteint ses objectifs dans le prévisionnel. Elle a remporté le talent concours BGE au niveau national. Donc, elle fait partie des 14 qui pourront avoir une web-série. Et elle envisage de faire une franchise avec Jolie Cuisine. Donc, voilà, une personne, parce qu'elle est femme et elle a des beaux messages à porter.
Voilà, donc des beaux exemples sur notre territoire. Aussi, qu'est-ce qui vous plaît dans votre métier sur cette volonté vraiment d'accompagner et se dire que chacun a un talent à mettre en valeur dans une entreprise ? Qu'est-ce qui vous fait vibrer ?
Justement, c'est d'avoir tout type de personnes. Justement, on n'a pas du tout de routine dans notre travail parce que les personnes ont vraiment des projets diversifiés, sont à des étapes différentes d'avancement et aussi notre structure nous permet de nous adapter vraiment aux besoins de la personne. On va l'amener à se former, à suivre des ateliers, des workshops, aussi rompre l'isolement. Et c'est vraiment diversifier toutes les missions que l'on a.
Et aujourd'hui en France, quelles sont les politiques et mesures mises en place pour aider les jeunes entrepreneurs ? Est-ce qu'elles sont suffisantes selon vous ?
Alors, il y a différents dispositifs. Il y a tant le dispositif de l'accompagnement, il y a des dispositifs aussi mis en place par le biais de prêts d'honneur, par exemple France Active, Initiative Loiret. Il y a des prêts bancaires, il y a aussi des solutions pour les personnes qui ne peuvent pas avoir un crédit classique, tel que, par exemple, nos partenaires l'ADI. Donc, j'ai envie de dire, il y a quand même beaucoup de dispositifs actuellement qui sont mis en place, tant pas forcément que aspect, on va dire, subvention financière, mais tout ce que porte la France, ça peut être aussi un tremplin pour ceux qui ont envie d'entreprendre. Et vraiment, les personnes qui ont envie d'entreprendre, je les invite à avoir un premier rendez-vous pour justement faire le point sur ce qu'ils savent et de vraiment les accompagner au mieux.
Merci beaucoup, Lucie, pour la structure BGE qui a montré qu'il y a des jeunes entrepreneurs dans le territoire qui rayonnent et qui font vivre la vie d'une entreprise malgré leur jeune âge. Merci beaucoup, Lucie.
Merci à vous.
On se retrouve dans quelques instants sur Radio Campus Orléans 88.3 pour continuer notre série d'interviews. À tout de suite.
Nous recevons à présent Amandine Goitre. Elle est responsable donc de... Elle travaille pour la Gendarmerie nationale au Centre d'information et de recrutement.
Bonjour. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter un peu plus en détail et expliquer votre poste à la Gendarmerie nationale et au Centre de recrutement ?
Oui, bien sûr. Alors moi, je suis la chef Goitre Amandine. Donc, avant d'être gendarme, je tiens à préciser, parce que c'est important de le dire, j'ai fait de longues études dans le domaine artistique. Donc pour être gendarme, voilà, c'est ça qui est important de savoir, c'est qu'on peut venir de n'importe où. Vous pouvez tout faire. Et après, c'est une vocation. Donc j'ai intégré, moi, ce qui m'intéressait, c'était le domaine judiciaire. Donc j'ai commencé ma carrière en tant que gendarme adjoint volontaire, puisqu'à l'époque, il y avait 2 ans d'attente pour entrer en tant que sous-officier de la gendarmerie. Donc j'ai été un équipier du sous-officier en brigade côtière. J'ai réussi à être à Nice, on va dire ça comme ça, vers Nice, où j'ai appris mes premières missions, où j'ai commencé à apprendre mes premières interventions. Et mes collègues m'ont aidée dans le sport pour réussir le concours sous-officier. Et donc après, je suis partie en école pendant 9 mois de formation militaire. Et en sortie d'école, à l'époque, les femmes ne pouvaient pas intégrer la gendarmerie mobile. Donc j'ai choisi la gendarmerie départementale et j'ai occupé mes premières fonctions encore en brigade côtière bord de mer à Villeneuve-Loubet. Donc, mission très intéressante, intervention rapide, mission judiciaire, sécurité routière, secours à la personne. J'ai également été détachée en brigade recherche, et également détachée au peloton, enfin tout ce qui est haute montagne.
Donc voilà, un bel exemple de carrière qui montre qu'on peut devenir gendarme à la gendarmerie nationale avec n'importe quel profil. Vous êtes au centre de recrutement boulevard Guy-Marie Ruyobé, si je ne dis pas de bêtises, à la gendarmerie nationale d'Orléans. Quel genre de profil se présente au portillon de la gendarmerie pour rentrer chez vous ?
Alors, on a tous les profils. Hein. Il faut savoir qu'on a... Alors, souvent, la gendarmerie, vous avez l'impression qu'on est là pour verbaliser. Mais non, il y a 300 métiers en gendarmerie. On a 2 belles carrières, les carrières administratives et les carrières opérationnelles. Donc, je vais plutôt parler de la partie opérationnelle qui est au cœur de l'action. Et dans cette partie opérationnelle, il y a 3 niveaux de recrutement. Donc il y a le premier recrutement avec ou sans diplôme. Donc ça, c'est plutôt intéressant. C'est gendarme adjoint volontaire. Donc c'est un équipier du sous-officier. Le deuxième recrutement, c'est sous-officier. Donc là, il faut le bac ou alors être gendarme adjoint volontaire pour passer le concours en interne. Donc lui, ça va être plus un professionnel de la sécurité routière, mission judiciaire. Et puis l'avantage, c'est qu'il va pouvoir choisir sa subdivision d'armes. Gendarmerie départementale, gendarmerie mobile, ce qu'on voit un peu sur Paris. C'est ceux qui partent en Outre-mer et qui renforcent tout ce qui est manifestation, donc qui voyagent. Et on a la garde républicaine, ce que vous voyez, le défilé, le 14, le défilé. Si vous aimez les chevaux, vous pouvez être à la garde républicaine et également la musique. Et nous avons les officiers de la gendarmerie, donc c'est avec un master, donc bac plus 5 ou bac plus 3 également, où vous pouvez également devenir officier en passant par la petite porte. Donc ça veut dire qu'avec ou sans diplôme, on peut devenir officier de la gendarmerie. Donc ça, c'est intéressant puisque c'est un expert du judiciaire et puis en même temps, il gère également le RH, tout ce qui est le management.
Et en termes de chiffres, à la gendarmerie nationale d'Orléans, on avoisine à peu près combien de gendarmes ?
Ah, de gendarmes ? On est... Alors d'Orléans, je ne sais pas, mais je sais qu'en comptant la métropole et l'outre-mer... Nous sommes entre 110 et 120 000 hommes et femmes. On vient de tout horizon. Il faut savoir qu'on crée la diversité. On représente la population. Il y a des... Oui, parce qu'en gendarmerie, comme j'ai dit, on peut se spécialiser. Il peut y avoir des pilotes de drones, des motards, pilotes d'hélicoptères, cavaliers. Enfin, vraiment, c'est très, très vaste. Moi aussi, là, je suis au centre de recrutement. Et en parallèle, j'exerce une autre activité, en cumul d'activités, c'est-à-dire que je suis artiste peintre. Ça, nous avons le droit. Vous pouvez être musicien également de la gendarmerie, ou même à côté être musicien, par exemple.
Et comment se passe le recrutement? Comment vous allez dénicher de nouvelles vocations? Comment vous...
Alors, je vais plutôt parler de mon expérience au centre de recrutement de Paris, puisque je viens du centre de recrutement de Paris. D'Orléans, mon expérience est un peu plus différente. Au recrutement de Paris, donc, nous, on démarchait alors tous les partenaires, Pôle emploi, mission locale, mairie. On se présentait, on apprenait nos différents recrutements aux employés et également aux jeunes qui venaient nous recevoir, et surtout on allait dans les universités. On réalisait des grandes conférences devant X personnes en présence d'un officier. Donc on faisait de la prospection agressive. Pour moi, on était plus un commercial, on y allait, on s'infiltrait dans les universités le plus possible pour démarcher et présenter nos différents métiers. Car ce que vous ne savez pas, c'est qu'on a aussi la classe préparatoire des jeunes talents qui est très 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 intéressant pour les personnes qui sont en fin d'études de master. C'est-à-dire qu'ils ont la chance, si leur dossier est sélectionné, de pouvoir être rémunérés et réviser tous les concours, pour passer tous les concours de catégorie A. C'est-à-dire que s'ils réussissent, ils partent par exemple à l'école de Babylone, ils sont payés 1400 euros par mois à peu près pour réviser. Voilà, réviser, et ils sont obligés de passer un concours officier de la gendarmerie, et en même temps, ils ont le droit de passer d'autres concours de catégorie A. Et ça, je pense que ce n'est pas assez diffusé, en tout cas, sur Orléans. Nous, on le faisait beaucoup sur Paris.
Et là, qu'est-ce qui fait vibrer les jeunes qui veulent, ou les moins jeunes qui veulent rentrer dans la gendarmerie? Quelles sont leurs vocations et leurs envies au début?
Alors, leurs envies, c'est surtout d'aider la population, à être proche de la population. L'enquête judiciaire, souvent, on me parle d'enquêteur technicien d'investigation criminelle, ou alors l'équipe cynophile, maître de chien. Alors ça ressort souvent. Motard de la gendarmerie, évidemment, et la gendarmerie mobile, on va dire, ressort en numéro 1. Donc c'est l'intervention, forcément, le voyage, le fait de ne pas avoir de routine et de pouvoir évoluer dans toute sa carrière.
Et qu'est-ce que vous répondez quand vous voyez que parfois la gendarmerie est mise à mal sur son image avec les violences policières, notamment pendant les manifestations? Alors évidemment, il y a différents corps de métier comme vous l'avez présenté. Tout le monde n'est pas à mettre dans le même palier, mais est-ce que ça renvoie une image assez négative et vous peinez à recruter, ou c'est pas forcément
alors,
en baisse?
Ou on peine à recruter, alors si... Nous n'allons pas nous mentir, nous sommes en baisse, mais pas que. Je sais très bien que dans les entreprises privées également, même sur Paris, ils sont tous en baisse. L'immobilier est en baisse également, donc quand il y a une chute, tout est en baisse. C'est pas forcément, je pense, lié à ça. Je pense que c'est le côté après-Covid. La jeune génération a une nouvelle vision, souhaite peut-être travailler différemment et pense plus à du bien-être. Il y a aussi la mise en place du télétravail. Nous, chez nous, effectivement, nous n'avons pas de télétravail. Peut-être que ça viendra pour les corps de soutien technique administratif. Ça, c'est autre chose. Donc, nous ne proposons pas ça. Nous, on propose, comme les pompiers, la disponibilité. Donc, c'est peut-être ça qui peut-être refroidir. Et nous vivons aussi en caserne. Avant, pour nous, vivre et ne pas payer de loyer est un avantage incroyable. Et les gamins, enfin les jeunes, ne se rendent pas compte de le fait de ne pas payer de loyer actuellement est une qualité, puisque les banques nous prêtent facilement de l'argent. Mais ils ne souhaitent plus vivre en caserne. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je ressens actuellement.
Et ce côté collectif, vous le vivez bien? Vous n'avez pas forcément envie d'indépendance? C'est pas un problème d'être toujours en caserne?
Alors, pour ma part... Joker. Non, je plaisante. Alors, non, j'ai eu beaucoup de chance tout au long de ma carrière. J'ai eu de la chance d'avoir des très, très beaux logements. Mais il s'avère qu'on n'est pas tous lotis à la même enseigne. Il peut y avoir des logements où on est peut-être un peu moins bien dedans, effectivement, et c'est vrai qu'on impose à nos conjoints ou à nos compagnes le fait de vivre dans un logement qui n'est pas forcément agréable. C'est vrai que ça, on l'impose, puisqu'on a un logement concédé par nécessité de service. Donc oui, ok, cela peut éventuellement être une contrainte, mais il peut y avoir un autre avantage. C'est le fait d'être à proximité de son lieu de travail, c'est-à-dire qu'on est là tout de suite, immédiatement, on est disponible. Et puis surtout, on ne paye pas de loyer. Donc par exemple, moi j'ai eu quand même un T4 à Maison Alfort qui coûte le loyer au moins les 2000. Là je pars à la direction, à la DG, mon loyer il vaut à peu près 2000 euros. Je ne débourse pas 2000 euros. Ça, il faut le savoir. Je pense que c'est important de le préciser.
Et aussi, peut-être, ce qui est important à dire, comme vous l'avez dit, vous êtes aussi en même temps artiste et ça vous permet de pas forcément être enclin uniquement à la gendarmerie. Vous pouvez avoir d'autres passions et activités à côté.
En gendarmerie, il faut savoir qu'on est des personnes actives. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont des passions. La voiture, par exemple, ça peut être la voiture, le sport, ça peut être la musique. Effectivement, ça peut être l'art. Et puis l'art, on peut également peindre et puis participer à des associations. Parce que moi, j'adore tout ce qui est associatif. Donc, du coup, on le fait. Il y a beaucoup de gendarmes qui le font. Voilà, le gendarme est proche de la population.
Et je pense que c'est le beau mot de la fin pour terminer cet entretien. Peut-être alors, une dernière question,
alors,
Daniel.
Une question, parce que l'une de vos réponses m'a intrigué quand vous avez expliqué tout à l'heure que vous ne pouviez pas intégrer la gendarmerie mobile parce que vous étiez une femme. Est-ce qu'il y a des postes inaccessibles aux femmes dans la gendarmerie?
Non, plus maintenant. Voilà.
À l'époque,
en fait, c'était à l'époque,
dit.
quand j'ai commencé, effectivement, la gendarmerie mobile était interdite aux femmes, effectivement. Et pourtant, je me souviens très bien de mes classes, j'ai adoré le passage à Saint-Astier. C'est là où on apprend le maintien de l'ordre. Et j'avais dit à mes instructeurs, mais pourquoi je suis obligée d'y aller? Parce que je suis vouée à une carrière judiciaire. Et finalement, j'ai adoré. Ça a été une de mes plus belles expériences de ma vie. Et maintenant, les femmes, on a le même salaire. Les femmes sont représentées, mais haut la main en gendarmerie. On a une porte-parole incroyable, les officiers, mais allez-y. Enfin, je dirais aux femmes de foncer, en tout cas en gendarmerie, on a toute notre place dans l'institution.
Donc l'égalité homme-femme progresse.
Ah oui, largement. Et l'ouverture d'esprit aussi, et plein d'autres sujets aussi, également.
Heureusement, parce que c'est souvent aussi ce qui peut refroidir... Les jeunes qui sont parfois en mal de s'investir dans la gendarmerie.
Et puis ça permet, comme vous le disiez, de refléter la société.
Mais exactement.
La réalité de la société.
Exactement.
Merci beaucoup pour être venu sur notre plateau. Vous êtes sur Radio Campus Orléans 88.3 FM. On poursuit l'après-midi dans quelques instants avec la suite des interviews. À bientôt sur Radio Campus.
Radio Campus 88.3, j'accueille à présent Monsieur Sciauveau, responsable donc du CFA, je vais y arriver, responsable du pôle auto au CFA Loiret-Est. Bonjour Monsieur Sciauveau.
Bonjour à vous.
Alors on a déjà reçu le CFA, mais le CFA c'est beaucoup d'apprentissage et beaucoup de corps de métier. Là nous allons nous pencher pendant quelques minutes sur le pôle auto. Est-ce que vous pourriez nous le présenter succinctement?
Bien sûr. Donc, la section mécanique automobile regroupe aujourd'hui du CAP au bac professionnel au CQP, donc une spécialisation liée à l'automobile.
Alors, certificat de qualification professionnelle, pardon.
Exactement, certificat de professionnalisation. Et nous avons rouvert, donc, suite à une demande du bassin qui était très croissante, la section carrosserie et la section peinture pour la rentrée de septembre. Voilà, donc nous avons aussi beaucoup évolué, nos ateliers ont énormément aussi évolué, nous avons déménagé le plateau technique de la mécanique automobile, carrosserie, peinture, nous avons repris les anciens locaux d'une concession donc BMW sur Villemandeur, au 12 rue des Frères Lumière, dans la zone Arboria, pour accueillir justement la section carrosserie, peinture. Nous comptons un peu plus de 160 apprentis en mécanique automobile, donc sur le pôle automobile. Nous sommes 7 formateurs et voilà, nous avons encore de la projection pour l'année prochaine et dans 2 ans pour encore justement développer les formations toujours liées à l'automobile. grâce aussi au partenariat avec donc l'OPCO Mobilité et l'ANFA Centre Val de Loire pour nous permettre d'évoluer et d'avancer.
L'ANFA.
ANFA, donc ANFA. Association nationale de la formation automobile.
D'accord. Pas d'apprentissage sans les entreprises.
Exactement, donc pas d'apprentissage sans les entreprises. C'est pour ça que là, nous sommes là aussi actuellement. Donc se faire connaître, voir les jeunes, les comprendre, savoir un petit peu aussi dans quelle situation ils se trouvent actuellement, où on a déjà certains jeunes qui ont des orientations. D'autres pour le moment qui se cherchent encore, donc voilà, on essaie de leur donner une petite lumière à tout ça, même s'ils viennent pas forcément chez nous, mais leur donner des conseils, comment faire, comment trouver une entreprise, leur donner les codes pour tout ça, pour que ça se passe bien, et ensuite trouver du partenariat. Donc nous, voilà, nous sommes bien implantés dans le Gâtinais. Nous travaillons aussi en étroite collaboration avec d'autres départements. Donc dans l'Est du Loiret, on a le 89, le 18, le 77, où aussi nous avons beaucoup d'entreprises. Et nous sommes aussi donc, sur le secteur de Gien, Sully-sur-Loire et Dampierre.
Alors, vous nous expliquez en introduction de cette émission que la formation évoluée, est-ce dû justement aux évolutions technologiques, l'électronique qui s'est invitée très largement dans les habitacles, et on pense aussi, on envisage déjà la fin du thermique.
Alors, c'est vrai qu'on entend dans la presse...
La fin du moteur thermique.
La fin du moteur thermique. Alors, sachez une chose, donc, c'est vrai qu'ils mettent une date en disant voilà, qu'en 2035, il n'y aura plus de moteur thermique. Voilà, une date est une date, mais dans la réalité, pour moi, personnellement, je pense que ça va déborder au-delà. Par contre, c'est vrai que maintenant, les automobiles d'aujourd'hui, on a beaucoup plus de systèmes embarqués. Ce système embarqué, c'est, je veux dire, en quelque sorte une intelligence donc, du véhicule qui font comprendre. C'est pour cela qu'on forme aussi des futurs techniciens pour comprendre ces systèmes embarqués, car le jour où il y a une panne et que le système du véhicule ne peut pas s'auto-réparer en mettant en mode dégradé, il faut impérativement qu'on arrive à comprendre et à réparer ce genre de situation.
Et un développement aussi du secteur de la carrosserie, vous nous disiez.
Exactement. Donc, on était sur le sujet déjà depuis à peu près 3-4 ans. Grâce à une nouvelle administration, donc au CFA Est-Loiret, ils ont pu étudier le projet qui nous a permis aussi donc, d'évoluer beaucoup plus rapidement, à répondre aussi à un besoin du bassin qui devenait crucial. Et quand on a annoncé donc sur le réseau un petit peu partout à nos partenaires qu'on ouvrait, je peux dire, voilà, ils étaient très contents. Les jeunes étaient très contents aussi d'avoir quelque chose à proximité, d'avoir un centre de formation à proximité qui puisse répondre à leurs demandes.
Alors, les comportements des jeunes évoluent, ceux des adultes également, concernant le genre et notamment les métiers que l'on peut envisager en fonction de son genre. Est-ce que, par exemple, la mécanique attire les jeunes filles ou les jeunes femmes ?
Bien sûr, bien sûr. Donc, nous avons des jeunes filles ou jeunes femmes, même en reconversion de métier, qui sont vraiment attirés sur ce qu'on appelle la généralité, la mécanique automobile. Voilà, mais la mécanique automobile a plusieurs branches. Il y a aussi le service après-vente où on recherche aussi des techniciennes qui puissent répondre aux clients, aux exigences des clients pour de la prise de rendez-vous, pour voilà, répondre aux premières questions très rapidement et même aux dernières, hein, parce qu'on a aussi des filles qui sont sur la partie diagnostic de plus en plus. En carrosserie, nous avons aussi donc Marie-Amélie qui est avec nous, qui est en première année de carrosserie, en reconversion totale, car elle a déjà travaillé, elle était en laboratoire pharmaceutique, donc changement de tout au tout. Voilà, donc on l'a souvent eu au téléphone, on a eu des conseils aussi par rapport à tout ça, et comme on dit, ce n'est plus du tout le monde, comment dire, un monde d'hommes proprement dit. Il y a une mixité au centre de formation aussi, on a fait le nécessaire pour accueillir ces jeunes filles, je veux dire en toute sécurité, que voilà, que tout se passe bien et qu'elles suivent la même formation que les garçons.
Les métiers de la mécanique ont toujours, enfin depuis longtemps, attirent les jeunes. Comment l'expliquez-vous ?
La mécanique, l'automobile, c'est vrai que dans certains secteurs, on parle d'un effet de mode. L'automobile, depuis 1900, est toujours un effet de mode. Ça ne change pas. Les jeunes, quand vous voyez aussi à la télé les nombreuses émissions qui passent par rapport à tout ça, voilà, donc les jeunes cherchent à comprendre, voient aussi certaines situations, connaissent des gens aussi qui sont en apprentissage, qui travaillent dans des garages. Et donc, on a justement un afflux de jeunes qui sortent de troisième ou d'autres hein, de lycée, qui s'intéressent à ce métier de plus en plus. On a aussi des jeunes qui étaient dans l'informatique, voyant tous ces systèmes embarqués, véhicules électriques, se disent ben, « Tiens, moi, j'aimerais bien comprendre et travailler aussi. » Car tout ce qui est concession, garage, demande à avoir ce genre de personnes pour réparer dans le futur. Enfin, dans le futur, même à l'instant T, actuellement, tout ce qui est véhicules hybrides et véhicules électriques.
Mmh. Et la difficulté pour un jeune qui souhaite intégrer... Je vais y arriver. Qui souhaite intégrer le CFA peut. Enfin, la difficulté réside dans le fait de ne pas avoir de patron, parce qu'il faut un patron. Est-ce que vous pouvez accompagner les jeunes, justement, pour faciliter alors, ce partenariat CFA-jeune entreprise?
Bien sûr, c'est ce qu'on appelle la TRICTIT. On a un accompagnement des jeunes. Donc, par rapport à ça, tout commence déjà avec les forums où on prend leur identité, savoir où sont exactement. Et on a aussi donc, des employeurs de temps en temps qui nous contactent en disant voilà, je suis dans tel secteur, je n'ai pas trouvé de jeunes. Donc, nous, on peut accompagner justement le jeune à aller dans ce secteur pour aller rencontrer ce patron. Ensuite, on a certains jeunes aussi. Vous savez que l'apprentissage commence à l'âge de 15 ans. On a de plus en plus de jeunes aussi à l'âge de 14 ans qui finissent une troisième, qui ne souhaitent pas rentrer en lycée, rentrer en apprentissage. Ils ont la possibilité de rentrer en entreprise avec une dérogation, hein, avec une convention qui est faite directement avec son entreprise qui va le prendre en apprentissage. Il suivra les mêmes semaines de cours, il suivra aussi sa formation en entreprise. Et quand il aura ses 15 ans, cette convention se transformera en contrat d'apprentissage.
Mmh, très bien. Oui, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont impatients de se lever de leur chaise et enfin de se servir de leurs mains.
C'est ça.
C'est vrai que l'apprentissage est une réponse adaptée à tous ces jeunes justement qui veulent travailler, hein, tout simplement, et assez rapidement. Alors, c'est ce qui est intéressant aussi avec les CFA, c'est que vous proposez des CAP, mais également des BEP et des bacs professionnels.
Alors, c'est ça. Donc, en mécanique automobile, le BEP n'existe plus. On est passé sur une formation bac professionnel sur 3 ans. Des jeunes qui sont en CAP sur 2 ans, qui souhaitent faire un bac professionnel, le font pas sur 3, mais sur 2 ans. Et ça permet d'avoir une continuité et puis d'avoir ces clés, justement, donc les diplômes pour accéder à des postes, soit responsabilité ou beaucoup plus important, et d'avoir surtout des spécialisations.
Alors attention avec les jeux de mots, parce qu'en radio on aime beaucoup ça, donc avoir les clés pour démarrer une nouvelle formation.
Oui, exactement, c'est ça.
dans l'automobile. Comment est-ce qu'on vous contacte?
Vous pouvez me contacter directement sur le site internet du CFA Est-Loiret. Hein, donc on a une plateforme www.cfa.est-loiret.com. Sur notre site internet, vous trouverez donc les interlocuteurs pour la section mécanique auto, pour la section vente, coiffure. Donc il y a des référents. On a aussi donc un accueil qui permet justement de filtrer et de répondre à vos questions beaucoup plus rapidement que nous, hein, sur certains cas, surtout au niveau des contrats. Mais voilà, si vous souhaitez avoir le référent ou le responsable de pôle, vous pouvez les contacter directement par mail sans aucun problème.
Et puis, l'apprentissage est aussi un moyen d'entrer dans l'entreprise. Hein. J'imagine qu'il y a peut-être certains jeunes qui font leur apprentissage dans l'entreprise et puis signent un contrat dans la foulée. Ça peut arriver.
Exactement. Donc, on a un type de jeunes cette année où ils signent un contrat, ce qu'on appelle les parcours gagnants. Ils signent un contrat d'apprentissage pour être embauchés tout de suite derrière. On a des jeunes aussi qui font leur apprentissage dans un garage, souhaitent évoluer sur, admettons, un bac professionnel dans un autre garage où il y a répondre bien au référentiel du bac professionnel, surtout sur le diagnostic et la recherche de panne. Le plus souvent, à 90%, c'est pour une embauche tout de suite.
Et tant mieux, voilà. Alors, on ne va pas présenter toutes les formations proposées par les CFA. Vous nous en avez parlé, il y a les services à la personne, l'automobile, les métiers de la coiffure, mais aussi de la vente. Voilà, plus d'informations en allant sur le site du CFA Loiret-Est pour avoir plus d'informations. Merci à vous, monsieur... Siovo.
Voilà. Merci à vous, bon après-midi.
Merci à vous, monsieur Siovo. Donc, merci. Je rappelle que vous êtes responsable du pôle auto du CFA Est. Vous êtes toujours sur Radio Campus 88.3.
Radio Campus 88.3 FM. Le moulin à paroles. Restitution de l'atelier radiophonique et paroles partagées. Le moulin à paroles.
It's me.